La ruée vers l'heure, dans la partie nord-ouest du Canada de la fin du 19e siècle, a été la plus importante de toute l'histoire et est décrite comme la dernière grande aventure avant l'ère moderne. Les prospecteurs ramassent alors les pépites dans les petits ruisseaux qui s'écoulent dans la rivière Klondike. Jusqu'à 100 000 personnes, surtout des hommes, participent à cette ruée frénétique, mais bien maîtrisée par la police montée canadienne. L'accès aux concessions est particulièrement difficile, mais tous ces gens acceptent toutes les épreuves parce qu'ils espèrent s'enrichir. L'or qui brille a toujours exercé et exerce encore une grande attirance sur les hommes. Et l'idée d'en trouver attise toutes les convoitises. Pour l'être humain, l'or est le bien le plus précieux qu'il puisse posséder. Voilà sans doute pourquoi quelqu'un a dit « Étudier l'épître de Jude, c'est comme piocher dans la galerie d'une mine d'or à cause de toutes les pépites qui s'y trouvent. » Selon la perspective de la parole de Dieu, ce métal jaune qui suscite toutes les passions n'est pas une richesse qu'il faut acquérir coûte que coûte. Au contraire, les auteurs sacrés enseignent que les valeurs qui, dans cette vie, comptent vraiment, sont tout autres. Dans le livre des Proverbes, le roi Salomon écrit « Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. » Mais qui donne encore du crédit à ces paroles? Notre culture occidentale est fortement décadente parce que c'est d'un même concert que nos philosophes, écrivains, scientifiques et politiciens rejettent l'idée d'une vérité absolue et donc la plupart des repères moraux judéo-chrétiens pour les remplacer par des opinions personnelles et la sacro-sainte tolérance tous azimuts. Ce marasme idéologique teinté de sentimentalistes enfantins désoriente même les croyants authentiques parce qu'ils ont bien du mal à faire la part des choses entre ce qui est vrai et faux et ce qu'il faut affectionner et rejeter. Dans le climat de confusion qu'est le nôtre, l'argument éloquent de Jude en faveur de la pureté doctrinale tombe à point nommé. Selon la parole de Dieu, la vérité est une richesse précieuse. Et pour Jude, cette vérité est un concept très important. Les Écritures enseignent que le Créateur, l'Éternel, est le Dieu de vérité. Et ce qu'il dit est parole de vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu devenu homme, est grâce et vérité. Jean rapporte que Jésus a lui-même déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul déclare que la vérité est en Jésus-Christ. Si le Père et le Fils sont la vérité, il en est de même de la troisième personne de la Trinité que Jean appelle l'Esprit de vérité. L'Église de Jésus-Christ est l'épicentre de la vérité, et a donc pour devoir de la proclamer haut et fort. Et c'est en acceptant ce message que les êtres humains connaissent la vérité et le salut. Cette notion de vérité est omniprésente dans la lettre écrite par Jude, parce que son objectif premier est de mettre les croyants du premier siècle en garde contre les mensonges et la fausse doctrine qui commence à se répandre dans les assemblées chrétiennes. Il faut en effet savoir que, s'il arrive aux enfants de Dieu d'oublier l'importance de la vérité, ce n'est jamais le cas du diable. Quand Lucifer s'est rebellé contre l'Éternel, il est devenu Satan, meurtrier et père du mensonge. Depuis, il fait tout son possible pour détruire, dissimuler ou déformer la vérité en cherchant à lui substituer la duplicité et l'imposture. Ces attaques les plus dangereuses ne proviennent pas des religions ou philosophies païennes qui foisonnent au premier siècle ni de ceux qui rejettent le Dieu unique et vrai, ainsi que sa parole, car ceux-ci ne se cachent pas. Ils sont en terrain découvert, et donc aussi visibles que le nez au milieu de la figure. Par contre, il faut absolument débusquer les faussaires spirituels qui affirment proclamer la vérité, mais qui ont pour objectif de tromper. Ces émissaires du diable s'infiltrent discrètement dans l'Église, où ils se font passer pour de vrais bergers, alors que ce sont des traîtres, des apostats, qui rejettent le Christ tout en prétendant être ses disciples. Ces gens sont mal intentionnés car, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Romains, aux Corinthiens et à Timothée, ils ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Ils ne connaissent plus la vérité. Ils considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. Et dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre ajoute « Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils n'ont plus rien à prendre en ce qui concerne l'amour de l'argent. Ils sont sous la malédiction divine. » Les auteurs du Nouveau Testament mettent souvent les croyants en garde contre le danger que représentent ces faux enseignants. D'ailleurs, autant Jésus que l'apôtre Paul les compare à des loups féroces et les accuse, le premier, de se déguiser en agneau, et le second d'être sans pitié pour le troupeau de Dieu. C'est dans un langage sans nuance et à l'emporte-pièce que dans sa courte lettre, Jude lui aussi condamne sans appel les faux chrétiens, que ce soit ceux qui, à son époque, ont déjà infiltré certaines églises ou les imposteurs qui viendront après eux. Le Nouveau Testament mentionne 7 hommes différents qui s'appellent Jude ou Judas, et qui correspondent à l'hébreu Judas. Ce nom est alors extrêmement courant parmi les Juifs, parce que 2 personnages importants l'ont porté. Le père de la tribu de Judas, dont est issu le roi David, ainsi que le Seigneur Jésus, et deuxièmement, le héros de la révolte des prêtres Maccabées contre le souverain grec Antiochus Épiphane, au IIe siècle avant Jésus-Christ. De ces 7 personnages, seuls 2 sont associés à un homme appelé Jacques et peuvent convenir comme auteur de la lettre de Jude. En effet, Jude se présente comme frère de Jacques. Mais de quel Jacques s'agit-il? Comme seul son prénom est mentionné, il ne peut pas être un illustre inconnu, mais quelqu'un dont l'autorité est largement acceptée, en particulier par les destinataires de la lettre. Or, tel est bien le cas de Jacques, demi-frère du Seigneur, que de son épître aux Galates l'apôtre Paul appelle l'une des colonnes de l'Église et qui est responsable de la communauté de Jérusalem. De plus, après le martyre de ce Jacques-là, il n'y a plus dans l'Église primitive quelqu'un portant ce prénom, important et reconnu au point où on peut simplement l'appeler Jacques, sans avoir à préciser davantage son identité. Parmi les 7 hommes qui s'appellent Jude ou Judas, il y a un Jude qui est apôtre de Jésus et qui est aussi appelé Thaddée. Il aurait pu être l'auteur de la lettre qui porte son nom, mais dans l'Évangile selon Luc, il est dit « fils de Jacques » et non pas « frère ». De plus, ce Jude, qui est apôtre, ne manquerait certainement pas de se présenter comme tel afin d'afficher son autorité, donc la crédibilité de sa lettre. Cet homme ne pouvant en convenir, il ne reste plus que Jude, qui est le demi-frère du Seigneur, et qui dans sa lettre se différencie des apôtres, disant indirectement qu'il n'est pas l'un d'eux. Par contre, et même s'il n'est pas cité, Jude, auteur de cette lettre, fait probablement partie du groupe qui, avec les apôtres, constitue le noyau des 120 disciples qui se réunissent régulièrement à Jérusalem pour prier. Il faut en effet savoir que les frères de Jésus, nés de Joseph et Marie après lui, sont incrédules pendant son ministère, mais croient en lui en tant que Seigneur, au plus tard après l'avoir vu ressusciter. Comme toujours, et pour à peu près tous les écrits de l'Ancien comme du Nouveau Testament, il y a des sceptiques, des empêcheurs de tourner en rond qui cherchent la petite bête. C'est ainsi que certains théologiens disent que Jude, qui a écrit la lettre qui porte son nom, n'existe pas, que c'est un pseudonyme pour un auteur inconnu paru à la fin du 1er ou du 2 siècle et qu'il se cache derrière Jude et Jacques, les frères de Jésus. Mais un tel babillage n'a aucun sens, car quel serait l'intérêt mentionner Jude, un personnage relativement peu connu et qui, s'il n'a pas écrit la lettre qui porte son nom, ne fait pour ainsi dire pas parler de lui dans le Nouveau Testament? Un auteur imaginaire ne mentionnerait pas Jude, mais s'abriterait plutôt derrière Jacques, qui lui est un personnage prestigieux et réputé. Et si la lettre avait été écrite par un plagiaire voulant se faire passer pour Jude, il n'aurait certainement pas manqué de se présenter comme le frère du Seigneur, ce que le vrai Jude ne fait pas. D'autres critiques incrédules prétendent que le passage de cette lettre est trop recherché pour convenir à un simple paysan de la Galilée. Toutefois, cette région étant proche de la Décapote non-juive, qui est située au sud-est de la mer de Galilée, on y parle couramment le grec. Il s'ensuit que les spéculations fumeuses concernant la qualité du grec de Jude n'ont aucune valeur. Et puis, il est tout à fait possible que Jude ait employé les services d'un copiste, comme Pierre l'a fait pour écrire sa première épître. Tout ça pour dire que l'épître de Jude a bel et bien été écrite par le frère de Jacques et que ces deux hommes sont les demi-frères du Seigneur. Une lecture même rapide de cette courte lettre ainsi que la seconde épître de Pierre révèle la présence de nombreuses similitudes entre les deux. En fait, 19 de ces 25 versets de la lettre de Jude font un parallèle avec la seconde épître de Pierre. De plus, le mot grec traduit par « moqueur » n'est utilisé que par Jude et Pierre. On pourrait donc se demander qui s'est inspiré de qui ou encore quelle est la source de ces deux auteurs sacrés ont utilisé. En premier lieu, on peut déjà dire que si ces deux écrits sont similaires, c'est parce qu'ils combattent la même hérésie, un syncrétisme d'idées païennes, juives et chrétiennes, persécuteurs de ce qui, au second siècle, s'appelle gnosticisme, un méli-mélo religieux constitué d'erreurs doctrinales, mais qui débouche aussi sur des conduites immorales et pernicieuses. Cela dit, et en second lieu, il semble que ce soit Pierre qui ait écrit le premier, car il prédit que, dans l'avenir, de faux enseignants paraîtront, tandis que Jude dit qu'ils sont déjà bien présents dans l'Église. En effet, dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre prophétise que, pendant les derniers jours, des moqueurs viendront, avec raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Or, Jude confirme cette prédiction comme se réalisant à son époque, puisqu'il écrit « Souvenez-vous des paroles qui ont été dites ci-devant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous disait, au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leurs propres convoitises impies. Comme il n'y a pas dans les Écritures une autre prophétie que celle de Pierre à laquelle Jude puise cette allusion, c'est bien Pierre qui a écrit le premier. Il est vrai que Jude parle des apôtres au pluriel, alors qu'il se réfère à Pierre. Mais c'est parce que Paul aussi a fait des prédictions similaires à celle de Pierre. Pour ce qui est de la date de la lettre écrite par Jude, le frère du Seigneur, rien n'indique précisément quand elle fut rédigée. Cependant, quand Jude dit « Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit », il laisse entendre que ses lecteurs ont connu certains des apôtres, si bien que ces derniers ne peuvent pas être morts depuis très longtemps. Le fait que Jude se distingue du groupe des apôtres veut seulement dire qu'il n'en fait pas partie, et s'il présente la foi chrétienne comme ayant été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu, cette façon de s'exprimer n'implique pas que, chronologiquement, Jude se situe après la période historique des apôtres. Cette exhortation qu'il adresse à ses lecteurs de rester fidèles à une vérité, à un message reçu et transmis, se trouve également dans les épîtres de l'apôtre Paul aux Galates, dans ses deux épîtres aux Thessaloniciens et sa première aux Corinthiens. Comme Jude ne mentionne pas la destruction de Jérusalem en 70 pour illustrer le jugement de Dieu contre les impies, c'est qu'il a écrit sa lettre avant cette tragédie. Par conséquent, la date de la rédaction de sa lettre se situe entre la mort de Pierre et la destruction de Jérusalem aux alentours des années 68 à 70 de notre ère. Nous ne connaissons pas les destinataires de la lettre. Cependant, comme Jude choisit des illustrations tirées de l'Ancien Testament et des écrits apocryphes juifs, on peut être sûr qu'il s'adresse à des croyants juifs. Cette petite lettre de Jude semble avoir rapidement été considérée comme inspirée de Dieu et donc acceptée par les chrétiens de la fin du premier siècle. En effet, les spécialistes pensent avoir discerné des allusions à cette lettre dans plusieurs écrits d'auteurs chrétiens comme la Didache, l'épître aux Corinthiens de Clément de Rome, l'épître de Barnabé, le berger d'Hermas et l'épître aux Philippiens de Polycarpe, qui, soit dit en passant, était disciple de l'apôtre Jean. Mais ces allusions ne suffisent pas pour être concluantes. Par contre, la preuve devient irréfutable vers la fin du second siècle, car déjà à cette époque, la lettre de Jude est citée dans la liste des livres du Nouveau Testament qui porte le nom de « Canon Muratori ». Toujours à la fin du second siècle, un philosophe et apologiste chrétien, Athinagore, qui est aussi l'un des premiers docteurs de l'Église d'Alexandrie, utilise l'épître de Jude pour défendre le christianisme dans une lettre qu'il adresse à l'empereur Marc Aurèle. Clément d'Alexandrie, père de l'Église entre la fin du second siècle et le début du troisième, cite plusieurs fois l'épître de Jude dans ses écrits. Tertullien, contemporain de Clément d'Alexandrie, dit qu'il considère la lettre de Jude comme canonique. Même chose pour Origène, élève de Clément d'Alexandrie, et qu'il la cite souvent dans ses écrits. Au IIIe siècle de notre ère, l'épître de Jude est inclus dans un papyrus, ce qui montre que l'Église la considère comme faisant partie du canon des livres inspirés du Nouveau Testament. Au IVe siècle, l'historien Eusèbe range l'épître de Jude parmi les livres dont l'authenticité est mise en doute par certains. Il fait de même avec deux Pierre, bien que, dit-il, elle soit acceptée comme inspirée par la plupart des croyants. Un peu plus tard, toujours au IVe siècle, Didyme, l'aveugle, qui est le proviseur de l'école de formation chrétienne d'Alexandrie, défend l'authenticité de l'épître de Jude contre ses détracteurs. Il est tout à fait compréhensible qu'à cette époque, des doutes planent encore sur l'inspiration de cette lettre à cause des passages de livres apocryphes juifs qu'elle contient. Il faut avouer que ces citations décoiffent car la première fois qu'on les lit, on se demande ce qu'elles font ici, dans un livre du Nouveau Testament. Cependant, le fait que Jude mentionne un passage de ses ouvrages ne signifie pas qu'il souscrit à tout leur contenu. L'apôtre Paul cite des poètes grecs, fait allusion à la traduction juive extra-biblique. Et pourtant, il n'adhère manifestement pas à tout ce qui est écrit dans ses ouvrages. Pas plus qu'il ne les accepte comme faisant partie des Écritures inspirées de Dieu. À l'instar de Paul, Jude cite des histoires connues pour étayer son argument, ce qui ne veut pas dire qu'il considère ces livres divinement inspirés. Quoi qu'il en soit, et d'une manière générale, l'Église chrétienne du IVe siècle accepte sans réserve l'épître de Jude, ce que prouvent les témoignages d'Athanase, évêque d'Alexandrie, du concile de Laodicée, de Cyrille, évêque de Jérusalem, de Grégoire, de Nazianze, père de l'Église d'Orient, et de Jérôme, le traducteur des Écritures en latin, la Vulgate. Mis à part cette lettre écrite par Jude, nous possédons très peu d'informations sur lui. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul mentionne en passant qu'il est marié et qu'il exerce un ministère itinérant à titre d'évangéliste. Selon l'historien Eusèbe, parce que les petits-fils de Jude sont de la lignée royale de David, l'empereur romain Domitien met en cause leur loyauté et les oblige à comparaître devant lui. Mais quand il apprend qu'ils sont de simples paysans, il les renvoie avec mépris. À part ce fait divers, la tradition garde le silence sur Jude.